Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Actualité réduite à la portion congrue comme vous vous en doutez, puisqu'il nous a été annoncé la semaine dernière que les lieux culturels resteraient fermés au moins jusqu'au 7 janvier, date à laquelle un nouveau point sera fait concernant l'évolution de la crise sanitaire. Voilà pour la situation à ce jour. Il y a toutefois une petite actualité, puisque ce vendredi 18 à 20h, un concert de l'Orchestre National du Capitole a lieu à la Halle aux Grains. Sans public, cela va de soi, mais retransmis en direct sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'orchestre, au programme des musiques de films. Il s'agit du concert Togan Sokiev et son cinéma, une soirée très attendue chaque saison. La Halle aux Grains a toujours affiché complet à cette occasion, mais ce ne sera donc pas le cas cette année. Ce programme nous a toutefois donné une idée, pourquoi ne pas consacrer une émission à ce genre bien particulier qu'est la musique au cinéma, la musique de film. Nous en avons parlé avec mon ami Serge Krichevski, oboïste à l'Orchestre National du Capitole pour ceux qui ne le sauraient pas encore, et il a accepté de se prêter au jeu avec moi. Il faut dire que Serge est à la fois un excellent musicien et un authentique cinéphile, c'est-à-dire le partenaire idéal pour vous proposer un programme de musique de film choisi par nos soins, avec tous les partis pris que cela implique. Le retour arrière de cette semaine, c'est donc un retour sur plus de 80 ans de musique au cinéma.
Mélomanie. Retour arrière.
Et pour commencer cette émission, il me semblait logique non pas de vous faire écouter la musique de film la plus ancienne parmi celles que nous avons retenues, mais plutôt une ouverture, le thème d'ouverture d'un film, et je vous propose le petit jeu suivant. Tout au long de ce numéro, nous allons diffuser les musiques avant de préciser le nom du compositeur et le titre du film dont elles sont extraites. Parfois nous donnerons un ou deux indices, parfois nous n'en donnerons pas. Voici le premier extrait, ça devrait vous dire quelque chose je pense. Alors, après ce premier extrait, je suis certain que plusieurs d'entre vous se seront dit « Mais bon sang, ça ressemble beaucoup au thème d'ouverture d'une saga de science-fiction très connue, dont l'épisode initial a été tourné il y a plus de 40 ans. » Eh bien, le thème de cette saga, nous allons l'écouter maintenant pour le comparer au précédent, dont nous vous révélerons ensuite le nom du compositeur. Voilà, donc là, je pense que tout le monde ou presque aura reconnu le thème d'ouverture de Star Wars, composé par l'américain John Williams, mais le premier, celui que nous avons écouté juste avant, qui l'a composé et de la bande originale de quel film est-il extrait ? Serge Krichevski, à vous l'honneur de répondre à ces deux questions.
Alors, la première musique que nous avons entendue a été écrite par un grand compositeur de musique de film d'origine autrichienne, mais qui est rapidement, vers ses 20 ans, parti à Hollywood, Erich Wolfgang Korngold. Il n'a pas écrit un très grand nombre de musiques de films, il a écrit aussi de la musique, comme on dit, sérieuse ou savante, mais celle-ci fait partie d'une de ses plus belles musiques, écrite pour le film King's Row de 1942. Duquel John Williams s'est très certainement au moins inspiré, sinon il y a beaucoup des similitudes qui crèvent les oreilles, si j'ose dire.
Ah oui, il n'y a pas besoin d'avoir l'oreille absolue.
Les intervalles, l'orchestration, la rythmique, enfin c'est un...
Non mais est-ce qu'on peut supposer qu'il aurait fait plus que copier, carrément plagier le... Parce que moi je n'ai lu nulle part qu'il avait reconnu s'être inspiré.
Oui, alors ça n'est pas certifié, mais en même temps, c'est une habitude hein, des compositeurs de musique de film. C'est d'ailleurs une de leurs qualités la plupart du temps. Ils ont un côté caméléon extraordinaire. C'est des gens qui peuvent écrire dans des styles très très divers parce qu'ils les connaissent très bien. Quand on écoute bien les deux versions de ce thème, on note quand même que pour celle de Korngold, rapidement, ça s'oriente vers une couleur un petit peu plus quand même, années 40, 45, un petit peu plus sirupeuse. Alors que chez Williams, il y a des harmonies un petit peu plus modernes, enfin c'est des détails, hein. Mais je pense que manifestement il y a une volonté de réutiliser ce matériel. Bon, après effectivement, hein, ça a donné tous les numéros autour de ce thème qu'on connaît, hein, pour toute la saga.
Alors, une anecdote tout de même concernant la première bande originale, ou plutôt le film qu'elle illustre, King's Row, en français, ça a donné Crime sans châtiment. Je ne sais pas trop pourquoi ce titre a été retenu. Ça n'a rien à voir avec le roman de Dostoïevski. Alors, film de 1942, tourné par Sam Wood, avec dans les rôles principaux Anne Sheridan, Robert Cummings et un certain Ronald Reagan.
Alors effectivement, Ronald Reagan, jusqu'aux années 1960, où il s'est vraiment reconverti, on peut dire, à la politique, a été un acteur hein, bon, qui a fait beaucoup de films. Ce film passerait pour un de ses rôles les plus réussis.
Nous enchaînons avec la musique d'un film tourné quelques années après King's Row. Cette musique devrait là encore dire quelque chose à beaucoup d'entre vous. En revanche, pas sûr que vous connaissiez le nom de son compositeur et que vous retrouviez le titre du film en question. Je donne deux indices. Son réalisateur est britannique et l'un des acteurs principaux est un des plus grands cinéastes de l'histoire. On écoute d'abord. Voilà, ce morceau, c'est le thème de Harry Lime. Et Harry Lime, dans ce film, est interprété par Orson Welles. Serge Krichevski, quel est le titre de ce film, tourné en 1948 à Vienne, et qui est le compositeur de la musique très célèbre que nous venons d'entendre?
Alors, il s'agit du Troisième Homme, donc un film de Carol Reed, qui est sorti en 1949, qui a été tourné vraiment juste après la guerre et qui utilise la ville de Vienne comme décor naturel, avec toutes les différentes strates hein, de la ville, puisqu'il y a une scène dans les égouts, il y a une scène sur la grande roue du Prater, magnifique scène, et donc on a cette musique qui est une musique de cabaret viennois jouée à la sitar par Anton Karas. Bon, ça s'écrit Karas avec un S, mais c'était un musicien d'origine hongroise, évidemment austro-hongroise, enfin hongroise et tchèque, qui a vécu à Vienne et qui est devenu célébrissime par cette musique. Il avait été découvert probablement dans un restaurant, dans un cabaret ou dans un cours d'un concert.
C'est ce que raconte la légende.
Voilà,
Carol Reed le découvre dans un restaurant viennois.
Et voilà, elle lui demande de lui composer une musique, mais ça appartient lien vraiment à toute cette mythologie de musique d'Europe centrale. Ça évoque un peu aussi les musiques de Kurt Weill, une musique qu'on sifflote, hein, qui est très naturelle, très agréable. Et, bon, et puis en fait, c'est un des éléments du film, un des éléments dramatiques de décor du film.
C'est un film très noir.
Une histoire très sombre autour d'un trafic de médicaments juste après la guerre où on avait besoin de soigner les gens. Et...
Scénario de Graham Greene, le grand écrivain britannique, avec dans les rôles principaux, dont je l'ai dit, Orson Welles, Joseph Cotten et Alida Valli. Grand prix du Festival de Cannes 1949, ce film est tout de suite une autre musique d'un film tourné celui-ci au début des années 50. Ça devrait être plus facile de trouver le titre et le réalisateur. Un seul indice, Saint-Mars-sur-Mer. Après cet extrait, je vais tout de suite diffuser une autre musique de film. Là, je crois que c'est encore plus facile de trouver puisque le compositeur et le réalisateur sont les mêmes que pour l'extrait que nous venons d'écouter à l'instant. Voilà, alors je pense que beaucoup de nos auditeurs auront probablement trouvé les titres de ces deux films sortis en 1953 et 1958 et tournés par le même réalisateur. Serge, à vous de révéler les titres, le nom du cinéaste et surtout, parce qu'il est nettement moins connu, le nom du compositeur.
Voilà, alors donc il s'agit bien sûr de Jacques Tati, qui est un cinéaste que nous aimons beaucoup, Eric et moi. Les Vacances de Monsieur Hulot, Mon Oncle, deux films coup sur coup, donc 53-58, d'un charme vraiment qui reste intact. Cette musique, donc écrite par Alain Roman, qui lui bon, était aussi un transfuge, enfin en réalité une personne née en Pologne en 1906 ou 7, je crois, et qui était arrivé en France pour étudier la musique avec Vincent Dindy, avec d'autres professeurs, et qui a trouvé un style. Il n'a pas écrit non plus énormément de musique, mais il a un style qui colle parfaitement aux images de Jacques Tati.
À l'atmosphère du film.
Film, c'est d'ailleurs ce qui fait le génie des grands compositeurs de musique de film. Hein. On parle souvent des collaborations exceptionnelles qu'il y a entre un compositeur d'opéra et son librettiste. Là, une musique et un réalisateur, on verra ça encore dans les autres extraits, qui correspondent parfaitement, c'est un atout considérable pour le film, la musique correspond vraiment à... C'est un élément indispensable.
Musique à la fois légère et poétique, un peu
très
nostalgique.
Fine. Oui, et finalement, c'est
un peu le Paris de l'époque aussi, qui passe là-dedans, une espèce de douce rêverie. On est tout à fait dans les films de Tati.
Oui, oui, c'est ça. C'est une musique finalement aussi qui s'approche un peu d'une chansonnette, mais en même temps, certainement, qui demande un très grand souci et détail de conception.
Alors je précise que la musique du film Les Vacances de Monsieur Hulot a un titre. Le titre, c'est Quel temps fait-il à Paris ? C'est pour ça que je veux parler ainsi.
Oui, oui,
Paris,
oui. Ben,
en passant.
Une musique qui a été d'ailleurs critiquée très très positivement par Boris Vian au début. Enfin, il a fait une mention spéciale quand le film est sorti, bien sûr. Hein.
Alors maintenant, changement d'atmosphère totale avec l'extrait qui va suivre et la musique d'un film parmi les plus célèbres de celui qu'il a réalisé. Il a aussi été tourné en 1958 comme Mon oncle. Je donne un indice en un seul mot, vertigineux. Bien. Alors là, il s'agit à la fois d'un des plus grands cinéastes et d'un des plus grands compositeurs de musique de film de l'histoire. C'était assez facile, mais à vous Serge de donner le titre du film, son réalisateur et le nom du compositeur de cette musique.
Alors donc, le film est Vertigo, un des très grands films d'Alfred Hitchcock, dans une de ses plus belles collaborations avec Bernard Herrmann, qui a écrit aussi d'autres musiques pour Hitchcock, donc musique du film Psychose, les films suivants Marnie.
Bah, La mort aux trousses.
La mort aux trousses, absolument, voilà. Alors, Bernard Herrmann aussi, très grand professionnel, hein, et puis qui a trouvé un alter ego avec Hitchcock jusqu'à ce que les choses s'enveniment un peu dans les années 65-66, et Bernard Herrmann a dû faire ses valises et être utilisé par d'autres cinéastes. Très grande atmosphère, tristanesque, on pourrait pas imaginer un film qui évoque, alors c'est Tristan, mais en même temps, enfin dans la musique...
On précise que quand on parle de Tristan, c'est Tristan et Isolde de Wagner.
De Richard Wagner, voilà. Mais il y a aussi une intrigue, puisque c'est un film policier basé sur Boileau et Narcejac, mais il y a aussi une référence très intéressante à Bruges la Morte de Rodenbach, qui a donné lieu aussi à un autre opéra.
La Ville Morte.
Voilà, La Ville Morte de Derich Korngold, précisément, dont on parlait au début pour King's Row. C'est-à-dire que cette atmosphère comme ça d'un personnage qui est très amoureux et qui veut essayer de retrouver, de reconstituer une image perdue qu'il croit en fait toujours vivante. On a ce thème dans l'opéra et dans le roman de Bruges la Morte.
Voilà, Herrmann, qui est, comme beaucoup de compositeurs américains, était passé par la Juilliard School et qui est très influencé aussi, à la base en tout cas, par les impressionnistes français, Ravel, Debussy. Ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de compositeurs de musique de film.
Oui, alors effectivement, on parlait du côté comme ça, de cette capacité à s'adapter à ce que veulent les producteurs et les réalisateurs. Les compositeurs de musique de film ont cette capacité à créer une ambiance à partir de ce que la plupart du temps, les compositeurs de musique savante ont imaginé. Alors, il y a des compositeurs de musique de film qui ont une imagination parfois très très puissante et ils ont comme ça, ils ont des références souvent, la musique post-romantique énormément, Mahler, Wagner, Richard Strauss aussi, tous de très grands orchestrateurs, et puis évidemment la musique française aussi. Ça, on parle évidemment de la musique hollywoodienne en particulier qui a utilisé un très grand nombre de compositeurs, c'était une industrie extraordinaire.
Alors, concernant Bernard Herrmann, je précise que sa dernière musique de film, en aura été celle de Taxi Driver de Martin Scorsese, 76, ouais. Peu avant sa mort en 1975. Nous continuons à avancer dans l'histoire du cinéma au XXe siècle et nous voici en 1960 pour écouter un extrait de la bande originale d'un film assez souvent diffusé à la télévision et encore il y a quelques jours d'ailleurs. Un indice, ils sont sept, mais ce ne sont pas des samouraïs. Je me demande qui n'a pas reconnu la musique du film Les Sept Mercenaires, tourné par John Sturges en 1960, adaptation en mode western des Sept Samouraïs d'Akira Kurosawa, avec Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn et quelques autres, j'en oublie. Mais le compositeur de cette musique, ça c'est moins facile. Qui est-ce?
Oui, alors effectivement, un compositeur qui n'a pas écrit, il a écrit énormément de musique, mais celle-ci est de très loin là. Celle qui a marqué le plus les mémoires, c'est Elmer Bernstein. Pas confondre avec Leonard Bernstein, compositeur qui a écrit cette magnifique mélodie, qui était certainement très proche d'Aaron Copland, au début un grand compositeur américain,
c'est un peu son petit protégé,
savant, voilà. Et on entend ça dès le début, hein, l'introduction avant le thème est très très marquée par la musique de Copland, cette ambiance très lyrique, voilà une ambiance d'homme. Hein. Dans les westerns, il y a beaucoup de morts, mais il y a...
Oui, puis on voit bien, comme vous le disiez là, pendant que la musique passait, on imagine bien des grands espaces aussi, les grands espaces
oui,
de l'Ouest américain.
Oui, c'est une musique très ouverte,
très évocatrice.
Il faudrait plus de temps, mais chaque style, déjà Vertigo, par exemple, juste avant, on entend qu'il y a un peu des canons de la musique du film comme ça, de thriller, c'est-à-dire vraiment la musique du film un peu de suspense, d'horreur, avec des manières d'écrire. Là, la musique de western, effectivement, il y a aussi des
invariants un peu.
Voilà, il y a des références depuis le...
Alors, Elmer Bernstein, certes, est resté très célèbre pour cette musique, celle des Sept Mercenaires, mais il a aussi composé la musique des Dix Commandements, de Cécile B2000, mais aussi La Grande Évasion. Et puis on parlait de Martin Scorsese, c'est lui qui a composé les bandes originales des Nerfs à Vif et du Temps de l'Innocence. D'ailleurs, pour cette composition, il a reçu l'Oscar de la meilleure musique de film en 1994. Voici maintenant un nouvel extrait de la bande originale d'un film tourné l'année suivante en 1961. La chanson est très célèbre, mais c'est la version instrumentale que je vous propose d'écouter.
Thank you.
est-il besoin de préciser le titre de ce morceau, de cette chanson qu'on associe immédiatement à cette scène inoubliable où l'on voit Audrey Hepburn chanter Moon River sur le rebord de la fenêtre en s'accompagnant à la guitare dans ce film merveilleux de Blake Edwards, Diamant sur canapé ou Breakfast at Tiffany's si vous préférez. Le compositeur de Moon River, c'est bien sûr Henry Mancini, qui a souvent collaboré avec Blake Edwards, notamment pour le film La Panthère Rose, l'autre de ses compositions qu'il a rendu célèbre dans le monde entier. Alors Moon River, c'est un petit bijou, cette musique et cette chanson, Serge.
Alors effectivement, un Oscar pour Henry Mancini, pour Moon River. Un très grand auteur aussi. On parlait tout à l'heure des styles. Alors là, on a un troisième style, après le style un peu suspense, le style western. Là, on a toujours dans le cinéma hollywoodien un style de... On peut dire, c'est une comédie sentimentale, un peu comédie dramatique. Alors surtout, on a eu dans Vertigo, on a eu Kim Novak, là on a Audrey Hepburn. Tous ces films, évidemment, tournent aussi autour de grandes stars féminines en particulier. Il y avait Alida Valli également dans Le Troisième Homme. Alors évidemment, Audrey Hepburn, c'est un magnifique personnage. Bon, elle a un caractère très particulier aussi dans ce film, qui porte le film. Et toute une romance qui s'exprime très bien dans cette mélodie.
Voilà, Moon River et Henry Mancini. Aussi passé par la Juilliard School, il avait été pianiste à ses débuts dans l'orchestre de Glenn Miller. Et parmi ses autres compositions, bon, je l'ai dit, il a fait tous les films de Blake Edwards, entre autres la fameuse musique de La Panthère Rose. Mais c'est également lui qui a composé le générique de la série Columbo. Nous revenons en Europe pour un film tourné en 1963. Nous allons tout de suite écouter la musique. Alors je crois qu'on peut dire qu'il s'agit, comme pour Hitchcock et Herman, d'un des duos réalisateurs-compositeurs les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Pour le titre du film, je vous donne un indice, c'est plus que 8, mais c'est moins que 9. Alors, Serge Krichetsky va se faire un plaisir de nous indiquer le titre du film concerné, le nom de son réalisateur et le compositeur de la musique que nous venons d'entendre. Ce n'était pas très difficile lorsqu'on aime le grand cinéma italien des années 60-70.
Voilà. Alors, un peu plus que 8, un peu moins que 9, ça ne peut être que 8,5 de Federico Fellini, qui a fait un duo de choc avec Nino Rota, donc aussi lui un grand compositeur. Tous les deux trouvent à se mélanger leurs univers. Bon, alors, Nino Rota, toujours plutôt quand même au service du réalisateur. Mais alors, on voit comment, en comparant par exemple au film et aux musiques de Jacques Tati et Alain Roman, voilà, il y a une mélancolie aussi, il y a une nostalgie, il y a une légèreté dans cette musique d'Orphéon, comme ça, de plein air, un peu, énormément de choses qui passent. Enfin, ça a l'air simple, mais en fait, il y a un travail de plein de petits éléments qui sont construits pour un film qui, lui, alors évidemment, est très très différent des films de Jacques Tati. C'est une grande construction dans laquelle Fellini déploie un peu son monde personnel à travers le.
C'est à la fois un film sur le cinéma, peut-être plus encore sur les cinéastes en fait, et sur la création artistique.
Voilà, la création avec Marcello Mastroianni, qui restera un de ses doubles dans plusieurs de ses films, aussi plusieurs grandes actrices, et puis une atmosphère vraiment incroyable, onirique, enfin des souvenirs qui se mélangent.
Je pense que c'est, pour moi c'est peut-être son plus grand film, 8,5, Otto e mezzo pour le dire en italien. Et pourquoi 8,5? Parce que lorsqu'on voit le film, on dit mais pourquoi 8,5? Alchimie. Alors, c'est assez simple, en fait. C'est que c'était bien son huitième film, mais qu'il avait tourné deux sketchs dans d'autres films. Donc, c'est pour ça qu'il a dit 8,5. Et puis, ça donne aussi la notion d'inachèvement qui est très présente dans ce film. Voilà, Rota et Fellini, bah, c'est aussi le Satyricon, c'est Amarcord, Casanova, Prova di Orchestra, répétition d'orchestre. Et puis, il a travaillé avec Visconti, Nino Rota, pour Rocco et ses frères et Le Guépard, et avec Francis Ford Coppola pour les deux premiers épisodes du Parrain, Parrain 2. La France, maintenant, la France qui a produit aussi des compositeurs de musique de films dont certains sont devenus célèbres dans le monde entier. Parmi eux, il y en a un dont la célébrité est liée, entre autres, à la bande originale d'un film musical. Je dis film musical, je devrais dire plutôt que c'est un film chanté, parce que c'est un film chanté. Voici un extrait qui n'est pas chanté, celui-ci, mais vous devriez reconnaître le film et le compositeur de cette musique qu'on entend au tout début de cette histoire de sœurs jumelles. L'arrivée des camionneurs, c'est le titre de l'extrait que l'on vient d'entendre. Alors Serge, qui sont donc les deux sœurs jumelles dont je parlais avant qu'on écoute ce morceau?
Ne s'appelleraient-elles pas Catherine et Françoise?
Mais ce sont surtout les demoiselles de Rochefort.
Voilà. Donc effectivement, dans la vie, Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac.
Les sœurs d'Orléac.
C'était donc du grand jazz, du beau jazz, du jazz français avec Michel Legrand qui nous a quittés il y a peut-être un peu plus d'un an. Très grand compositeur, et ça nous permet de parler justement de l'apport du jazz dans le cinéma.
Il y a Miles Davis.
Louis Armstrong, alors Miles Davis dans Ascenseur pour l'échafaud, Louis Armstrong dans un film qui s'appelle, je crois, Haute Société, qu'on voit, on voit jouer, évidemment. Il y a également Martial Solal au début de Pierrot le Fou, qui fait une bande extraordinaire. Bon, Michel Legrand, ces deux films au moins avec Jacques Demy, donc Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort. Cette grande fête hein, sur la place Colbert de Rochefort, l'arrivée, donc on a entendu l'arrivée des forains, et puis cette histoire encore, hein, romantique, romance, un petit peu, avec Jacques Perrin, enfin des artistes avec extraordinaires.
Gene Kelly,
Georges Chakiris aussi.
Daniel Darieux.
Oui.
Daniel Darieux.
Une ambiance de fête colorée, vraiment, qui est toujours très, très agréable de revoir. C'est 67, et c'est l'année où malheureusement...
66, et François d'Orléac se tue l'année suivante.
Se tue en allant à Cannes, je crois, en voiture. Enfin,
alors, l'histoire est terrible, c'est qu'en fait, elle était allée rendre visite à sa sœur Catherine Deneuve qui venait d'accoucher de Christian Vadim. Et c'est en repartant qu'elle quitte la route sur l'autoroute de l'Estérel. Sa voiture prend feu et elle meurt. A priori, elle est morte brûlée vive. Hein. Terrible, parce que c'était une merveilleuse actrice.
Peut voir dans L'Homme de Rio aussi, dans plusieurs
très grande perte.
Dont beaucoup ont dit que si elle avait été toujours vivante, elle aurait fait de l'ombre à sa
sœur. C'est pas impossible, je crois que les sœurs s'entendaient bien.
Oui,
je crois que Catherine Deneuve était très marquée par la perte de sa sœur dans des circonstances aussi tragique. 3 ans plus tard est tourné toujours en France un très grand film par un de nos meilleurs cinéastes de l'après-guerre. La bande originale est à la hauteur, je donne un indice, ce film est l'adaptation à l'écran du roman éponyme de Joseph Kessel. Alors, Serge, quel est donc le titre du film dont nous venons d'écouter un extrait de la bande originale et qui est son réalisateur? Bon, je disais réalisateur très connu, film aussi très connu, très marquant pour
Jean-Pierre
ceux qui l'ont vu.
Melville, voilà, Jean-Pierre Melville, donc dans L'Armée des Ombres, un film sur la résistance, donc dans lequel Jean-Pierre Grumbach, qui était le nom véritable de Melville, évoque ce qu'il a lui-même vécu, son passé de résistant, bon, à travers un scénario donc réécrit. Enfin, Joseph Kessel, je ne sais pas s'il lui a, il a, il a, il a participé au scénario, mais en
Oui,
tout cas,
enfin,
voilà,
c'est une adaptation du roman de
d'après son
Kessel,
roman.
hein.
Oui. Donc, avec le compositeur Éric de Marsan, avec lequel Melville a beaucoup travaillé, je pense que oui, la majorité de ses films ont été faits avec lui.
De Marsan, Éric de Marsan, qui est toujours de ce monde, il a 82 ans aujourd'hui. Il avait commencé dans les équipes de Michel Magne et François de Roubaix, deux autres grands compositeurs de musique de film, et il travaille toujours, et apparemment c'est le compositeur attitré des musiques des films de Guillaume Nicloux aujourd'hui. Nous voici maintenant au début des années 80 avec une bande originale qui eut un certain succès à l'époque, au-delà même du film auquel elle se rattache. Son compositeur est britannique, le réalisateur du film en question également. On écoute le thème principal de cette bande originale et nous vous en dirons un peu plus ensuite. La musique de Meurtre dans un jardin anglais, film de Peter Greenaway, sorti en 1982, et c'est Michael Nyman qui en a composé la bande originale. Lui aussi est toujours de ce monde, il a 76 ans. On le rattache souvent au mouvement minimaliste américain, et l'on peut dire qu'à l'instar de Philip Glass, autre compositeur minimaliste bien connu, la musique de film ne constitue pas la partie principale de son œuvre. Serge, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a fait Nyman au cinéma ou ailleurs?
Bon, je connais pas très très bien, très en détail sa musique, mais dans cet extrait-là, bon, qui doit autant, alors on a parlé des influences, de la capacité des compositeurs de musique de film à créer un univers. Là, le film se situe à la fin du XVIIe siècle, donc la volonté de Peter Greenaway, c'était précisément d'évoquer par la musique l'atmosphère du film, en faire un élément de décor, puisque bon, l'autre décor, c'est le jardin anglais, dans lequel il y a une histoire policière autour d'un dessinateur, et en fait, le compositeur de référence, c'est Purcell. Donc cette musique qu'on a entendue, c'est en fait du Purcell que Michael Nyman a modernisé, si on peut dire, avec un ensemble, une instrumentation très étrange qui mélange les instruments anciens et les instruments modernes, des saxophones aigus, enfin ça donne une sonorité très particulière qui est complètement décalée et qui convient au film de Greenaway, qui a toujours voilà, un sens très aigu de la manière de distancier, de mettre en distance l'histoire, en particulier l'histoire de la peinture européenne. C'est lui-même, il est dessiné. Je
Oui,
crois
oui,
même
oui.
que d'ailleurs, ce sont ces dessins qu'on voit au cours du film. Il y a donc une série de 13 dessins qui doivent être faits par contrat par le peintre dessinateur. Et on voit Greenaway en train de dessiner lui-même. Donc il y a cette référence à la peinture.
Voilà, Michael Nyman qui a donc composé la plupart des musiques des films de Peter Greenaway, aussi Jane Campion, et puis il a composé des opéras, de la musique de chambre, des quatuors à cordes. Il y a un des plus grands compositeurs de musique de film qui manque à l'appel jusqu'alors, un de ceux dont la célébrité est due uniquement à ce genre. Il est mort récemment et son nom est très lié à ce qu'on a appelé le western spaghetti. Vous me voyez venir, beaucoup de ses musiques les plus célèbres ont été composées dans ce domaine, mais on va en écouter une écrite pour un film qui n'est pas un western, mais très connu elle aussi.
Thank you.
le thème principal du film Mission, avec son long et magnifique solo de hautbois composé en 1986 par Ennio Morricone, parce que c'est bien de lui qu'il s'agit. Alors, monsieur le hautboïste, ça, c'est une musique qui doit vous toucher encore plus que les autres.
Oui, oui, bah, c'est une magnifique mélodie. Elle aussi, un petit peu romantique quand même, hein, même si le contexte, alors là, on est très loin de Purcell et du jardin anglais. C'est au contraire, c'est très, très décalé, puisque ça se passe dans une mission Guarani pour une histoire qui tourne très, très mal, malheureusement, pour les pauvres Indiens et les prêtres à la fin, qui s'opposent à l'arrivée des conquérants portugais et espagnols. Une musique qui est devenue très, très célèbre pour les oboïstes. On peut même fortement parier qu'il y a beaucoup de jeunes oboïstes qui ont demandé à jouer de cet instrument en entendant ça pour pouvoir le jouer.
C'est très possible.
C'est très grand compositeur, Ennio Morricone, effectivement.
Mort il y a quelques semaines, hein, à l'âge de 92 ans, après avoir laissé une œuvre pléthorique dans le domaine de la musique.
Lui aussi, alors, comme vous disiez pour Michael Nyman, Michael Nyman est vraiment beaucoup plus à cheval sur les deux univers, mais Morricone a écrit beaucoup de manière savante, hein, il a écrit des dans les formes symphoniques, quatuors, enfin des choses.
C'était sa formation. Hein.
Mais bon, ses œuvres ne sont très très peu jouées, enfin il faut parfois vraiment aller les chercher. Mais...
Évidemment, ces musiques sont omniprésentes dans les films de Sergio Leone que j'évoquais entre les lignes tout à l'heure. Pour terminer, j'ai choisi de vous faire écouter une musique du film le plus ancien parmi ceux que nous aurons évoqués dans cette émission. Pourquoi ce choix ? Bien tout simplement parce que de même que nous avons commencé avec le thème d'ouverture d'un film, nous allons conclure avec la musique de la scène finale d'un autre. Le film et son personnage principal sont archi célèbres. Écoutez et souriez. Musique de la scène finale du film Les Temps Modernes, film de Charlie Chaplin tourné en 1936, une musique à qui l'on a donné le titre Smile par la suite et sur laquelle des paroles ont été écrites pour une chanson qu'interprétera merveilleusement Nat King Cole en 1954. Alors Serge, le film est magnifique bien sûr et la scène de la fin est devenue mythique, entre autres grâce à cette musique, mais qui l'a composée ? Est-ce que c'est bien Chaplin lui-même ? Il y a quelques doutes à ce sujet.
Oui, c'est-à-dire que Charlie Chaplin, avec les multiples talents qu'on lui a connus, n'était peut-être pas un compositeur dans l'acception la plus pleine du terme, donc il a eu une imagination musicale certainement très grande et généreuse, avec des mélodies qu'il pouvait transmettre à des gens de plus du métier. Alors apparemment le compositeur et pianiste David Raxin aurait été une des personnes à qui Chaplin aurait sifflé, aurait dicté un petit peu les mélodies, et puis Raxin et peut-être d'autres auraient mis en forme, orchestré, dirigé, enregistré. Il faut aussi noter une chose, c'est que là on est en 36 et Charlie Chaplin a voulu préserver son personnage de Charlot qu'on voit pour la dernière fois dans Les Temps Modernes, cette image inoubliable de Chaplin marchant avec la magnifique Paulette Goddard sur un fond comme ça de crépuscule, ils vont à la conquête d'une nouvelle vie. Ce personnage, c'est la dernière fois qu'on le verra, puisque dans les films suivants, Charlot n'existera plus. Donc c'est aussi le premier film dans lequel on entend la voix de Charlie Chaplin au moment où il chante, donc la chanson dans le cabaret où il fait partir
il
ses
manchettes. Il chante en onomatopée.
Voilà, en onomatopée, il perd ses manchettes sur lesquelles le texte était écrit et il invente un texte qui fait rire à n'en plus finir toute la salle. Et donc, nous, on aura entendu la voix de Chaplin à ce moment-là, et puis on la réentendra dans le film suivant, qui sera Le Dictateur, si je ne me trompe. Et voilà, encore une magnifique actrice, hein, Paulette Goddard, qui aura été aussi la femme de Chaplin. Et ce film inoubliable avec cette fin.
Voilà, cette fin, cette scène finale avec Charlot Chaplin qui remonte le moral de sa compagne Paulette Goddard et il lui demande de sourire avant de partir sur la route avec elle, face aux montagnes à l'horizon, vers un futur incertain, mais ensemble, main dans la main. Voilà, ça nous rappelle que nous vivons aussi des temps incertains aujourd'hui. Je voulais donc finir là-dessus. Fin de cette émission. Merci beaucoup Serge Krzyzewski de vous être prêté au jeu et de nous avoir apporté l'érudition musicale qu'on vous connaît depuis longtemps, mais aussi votre passion pour le cinéma, parce que pour parler de musique de film, il faut bien sûr connaître la musique, mais il faut également connaître les films pour lesquels elles ont été composées. J'avoue que j'ai découvert et appris pas mal de choses lors de ce numéro grâce à vous, et je ne doute pas que ce soit le cas pour nombre de nos auditeurs. La prochaine actualité musicale classique dans notre région devrait être le concert du Nouvel An que va donner l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tougan Sokiev, uniquement le 31 décembre à 20h. Là encore, le concert va être retransmis en direct sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'orchestre. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès maintenant sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et une très bonne semaine.